d'une émission de Principe Actif. Une rediff, quoi.
Un invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h, 21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Tour de Piste qui reçoit ce soir Richard Montségu, auteur, compositeur et interprète. Il est aussi directeur artistique de la compagnie Antiquarks, a fait des études de sociologie et aime se définir comme musicien sociologue. Avec le duo Kumakura qu'il a fondé avec le musicien burkinabé Jakassa, il chante et joue une humanité qui est une dans un monde où le repli identitaire, la haine de l'autre et l'indifférence gagnent un peu plus de terrain chaque jour. Tout au long de l'heure de direct que vous allez passer avec nous, j'interrogerai mon invité sur le projet Kumakura, bien sûr, avec la sortie en mars d'un album éponyme. Nous reviendrons sur son parcours d'homme et d'artiste, et je tirerai un peu sur le t-shirt du sociologue parce que c'est plus fort que moi. Les clés de la programmation musicale lui seront bien évidemment confiées. Salut Richard et merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et tous.
Alors en ce début d'émission, je vais interroger le musicien de Kumakura avec cette première question. Il est né quand et comment ce projet ?
Alors, Kumakura, qui signifie la nouvelle langue ou la nouvelle raison en langue Dioula. C'est une langue qu'on retrouve dans différents pays d'Afrique de l'Ouest et aussi une ethnie. C'est un projet qui est né avec Jakassa. Jakassa qui est donc musicien de musicien et chanteur de reggae. Il joue du balafon, donc le xylophone africain, on pourrait dire. C'est un griot, fils de griot. C'est-à-dire que c'est transmis de père en fils, c'est héréditaire. Son père était griot, le père de son père était griot, etc. Sa maman aussi. Et j'ai commencé à collaborer avec lui en 2011 pour le titre Sababou, qui a eu beaucoup de succès. Et en fait, j'ai arrangé sa composition du titre Sababou. On est resté en contact pendant plusieurs années. On se donnait des nouvelles. Et puis, j'ai décidé de renouer avec mes racines africaines, dans le sens où j'ai appris les percussions mandingues, entre autres, c'est-à-dire d'Afrique de l'Ouest. Hein. Vous connaissez sans doute toutes et tous le djembé, avec les instruments basses qui l'accompagnent, etc., comme c'est très à la mode depuis les années fin des années 80-90, et donc renouer avec l'Afrique en lui proposant de partir avec lui au Burkina et de recruter une équipe et enregistrer un album au Burkina Faso. Donc ça date de 2023, voilà, 2022-2023.
Et vous êtes partagé le travail comment pour Kumakura ?
Et ben en fait lui, nous avons différents thèmes que nous traitons, donc il y a des thèmes, des sujets, et j'ai voulu soumettre, on va dire, ces sujets aux deux chanteurs, donc Yaya Alpha Sanogo, qui chante dans l'album, qui est un griot lui aussi, alors un griot chanteur, là, il est spécialisé dans le chant, et Jakassa aussi en tant que compositeur enfin, auteur, voilà, de paroles. Ce qui fait qu'ils ont traité ces sujets. Moi aussi, je chante. Kumakura, en fait, est un groupe. Dans l'album, en fait, on entend trois chanteurs lead qui se laissent les uns les autres la parole dans différentes langues.
Et alors, quels univers musicaux et quel savoir-faire vous êtes apportés mutuellement pour ce projet ?
Bah, disons que je pour avoir fréquenté les musiques africaines à la fois traditionnelles avec les tambours et à la fois modernes, c'est-à-dire toutes les musiques électriques africaines qui sont nées dans les indépendances africaines des années 60. On connaît par exemple Fela, y a Manu Dibango, Youssou N'Dour, on connaît ou encore le chanteur Salif Keita, voilà, je cherchais. Et je connais un peu toutes ces esthétiques pour les avoir jouées et beaucoup écoutées, ce qui fait que j'ai fait une proposition en tant que compositeur, en tout cas j'ai apporté les compositions musicales et j'ai fait des propositions très simples, des accompagnements par exemple, Et puis, ensuite, nous avons écrit les arrangements ensemble. Nous avons quand même passé 4 semaines hein, là-bas à travailler en répertoire et à l'enregistrer. Donc, j'étais un peu comme un poisson dans l'eau et eux aussi, ils étaient très, très heureux qu'un blanc, qu'un européen soit aussi au fait des musiques africaines et particulièrement des instruments traditionnels.
Qu'est-ce que vous avez voulu célébrer avec ce disque qui va bientôt sortir ?
Eh bien, cette question de nouvelle langue. Par rapport à la novlangue qui est une utilisation de mots qui ne veulent plus rien dire, entre autres, et puis aussi la suppression de certains mots qui font état d'émotions. La novlangue, ça vient de 1984 de George Orwell, c'est-à-dire la suppression de certains mots pour ne plus avoir à décrire les émotions et à limiter le registre de l'émotion. Et moi, j'ai voulu faire avec cette nouvelle langue un contrepoint à la novlangue.
Voilà. Alors, Noctambus, c'est le groupe que tu as souhaité nous faire écouter et découvrir. Tu as choisi le titre Train de nuit. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce jeune collectif français, sur le morceau que tu as choisi ?
Et ben, en fait, je l'ai découvert parce que c'est le fils d'un copain qui joue de la basse dans ce qui s'appelle... Nankuma le sage et que j'ai découvert. Nous avons échangé des musiques et je trouve que c'est un titre très mélancolique et je suis plutôt quelqu'un de mélancolique dans la vie. J'adore ça. C'est quand je peux rêver, quand je peux penser qu'un autre monde est possible et je trouve que c'est un très très joli titre.
Collectif Noctambus, c'est le choix de Richard Monségu pour ouvrir le bal de la programmation de cette heure de radio en sa compagnie. Le groupe que je viens de citer est un mélange audacieux de pop alternative, jazz contemporain, new soul et musique industrielle. Kumakura est une synthèse inédite qui se nourrit de plein d'influences très différentes, dont je veux bien que tu nous dresses un petit inventaire que tu as déjà fait un peu en début d'émission.
Alors, c'est à la fois les musiques africaines d'Afrique de l'Ouest. On sait très bien qu'il y a différents pays. Dans ces pays, il y a différentes ethnies. Je voulais aussi y mettre de l'Afrique centrale. Donc, je l'ai fait aussi dans différents titres. Et aussi aller chercher du côté de l'afro-descendance, et du côté des îles, puisqu'on sait, par exemple, au nord, à l'ouest du Sénégal, il y a les îles du Cap-Vert. Et dans les années 60, il y a eu aussi une grande mode en Afrique de l'Ouest qui était la rumba cubaine. Donc, ils dansaient en couple, les congas sont arrivés, donc les tambours cubains, les bongos, différents autres instruments. Et j'ai décidé de faire un à la fois un registre émotionnel différent pour avoir des balades, parce que j'adore les balades. On appellerait ça les slow dans une autre époque.
Et puis c'est mélancolique les balades.
Oui, et puis j'adore ça. Il y a un titre qui s'appelle Teria, par exemple, qui signifie l'amitié. J'ai proposé au chanteur, et particulièrement à Yaya Alpha Sanogo, de chanter l'amitié entre un homme et une femme. Quelle possibilité pour une amitié entre un homme et une femme qui pourrait dépasser, on va dire, l'amour, et que une forme d'amitié, de relation de confiance, de relation où on se dit tout. Je voulais que ce soit traité aussi par des chanteurs du continent africain.
Et comment t'expliques la vitalité persistante des musiques dont les racines plongent justement vers le continent africain ?
Je pense que c'est une question d'éducation musicale. La musique est omniprésente. Et pas seulement la musique, le corps aussi. Le corps est omniprésent, c'est-à-dire la question de la danse. Les situations de vie peuvent être dures. La dureté du monde social n'existe pas que chez nous, elle existe aussi ailleurs, sous d'autres formes. Et la danse, particulièrement pour les femmes, est une manière de prendre le pouvoir dans l'espace public. Et ça, je pense que c'est une force incroyable. Le fait aussi qu'ils aient fait évoluer leur musique à partir de l'électrification des instruments. Mais comme dans le monde occidental, hein, dès que l'électrification des instruments, la guitare électrique, etc., la basse électrique, ça a renouvelé le répertoire et l'esthétique de différents pays, hein. Que ce soit effectivement l'Europe, que ce soit même l'Inde, que ce soit dans le monde entier, l'électrification des instruments a donné des choses incroyables. Mais eux, particulièrement, en tout cas, pas en Occident, mais dans les autres pays, ils avaient déjà une base de musique traditionnelle qu'ils ont électrifiée. Ce qui fait que le joueur de tambour, par exemple, quand il s'est mis à faire la basse, il a imité avec sa basse les instruments. La guitare électrique, il a imité le chant, etc. Donc pour moi, c'est un glissement qui s'est passé, qui s'est opéré de manière tout à fait naturelle, et particulièrement dans les mégapoles. C'est-à-dire que ce soit à Dakar au Sénégal, ou que ce soit Conakry en Guinée, ou Abidjan en Côte d'Ivoire, ou au Zaïre avec Kinshasa, l'ex-Zaïre. Voilà, ce sont des choses qui, moi, qui m'ont marqué, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis intéressé aux deux esthétiques, c'est-à-dire les musiques traditionnelles à base de tambours et d'instruments traditionnels acoustiques, et les musiques électriques que l'on peut trouver aujourd'hui, ou que l'on peut connaître avec Magic System ou plein d'autres Africains qui font de la musique dite mainstream ou moderne.
Oui, de la grosse pop, comme on dit. Hein,
oui, c'est ça, tout à fait.
Alors, on va pas vous faire attendre plus longtemps avant d'écouter le premier titre de Kumakura. Celui-ci s'appelle Fajiri. Avant de nous parler de ce titre, je veux bien que tu reviennes sur la signification de Fajiri.
Alors, Fajiri, ça a deux significations. Ça veut dire le l'aube. Le soleil qui se lève, et ça veut dire aussi que quand le soleil se lève, on va faire la prière pour bénir le jour qui pointe. Voilà, tout simplement.
Alors on l'écoute, Fajiri Kumakura. Le groupe que vous venez d'écouter s'appelle Kumakura avec le titre Fajiri. C'est le premier morceau qui dévoile l'univers de cette formation avant la sortie de leur album éponyme prévu pour mars. Mon invité jusqu'à 21h, c'est Richard Monségu. Qu'est-ce qui réunit la culture et la musique de l'Afrique de l'Ouest à celle de l'Europe dont tu viens?
Oh bah, ce qui la relie, c'est un passé commun, hein, avec la colonisation notamment. Et le fait que les diasporas, puisque la France a une tradition de terre d'accueil, même si elle est mise en question depuis quelques décennies, on peut le regretter, mais la diaspora, toutes les diasporas africaines étaient présentes. Leur ouverture déjà dans les années 60 sur les musiques électriques, évidemment qu'ils ont toujours écouté les titres, les tubes, des musiques européennes ou américaines ou afro-américaines. Donc les chanteurs connus de chansons françaises quand ce sont des pays francophones, comme par exemple Brel ou Edith Piaf, il y a eu un désir de leur part de se nourrir de musique du Nord, des musiques du Nord. Et ensuite les diasporas qui sont arrivées particulièrement dans les années 80, enfin 70-80, il y a eu des pratiques de loisirs qu'on appelait qui existaient dans les MJC, dans les maisons des jeunes et de la culture, par exemple des danses africaines, des percussions africaines, et tout ça s'est mis en place petit à petit pour avoir un essor, un point d'orgue dans les années 80. Où là, les Blancs ont commencé à jouer des percussions et à apprendre d'eux, à apprendre des musiciens qui étaient venus lors de ballets, les ballets africains par exemple, où ça jouait de la percussion, et percussion et danse. Ce qui fait que l'échange a toujours existé. Malheureusement, on pourrait aussi regretter, pas forcément dans l'autre sens. On a plutôt eu, nous, une pratique exotique, c'est-à-dire on a fait de la réappropriation culturelle, mais on n'est pas forcément, on n'est pas passé forcément de l'autre côté, ou en tout cas ça a été plutôt rare. C'était les musiques de radio avec Touré Kounda dans les années 80, Touré Kounda qui était très connu, musique du Sénégal. Enfin, de Casamance, pour être plus précis. Et c'est là où nous nous sommes intéressés à toutes ces musiques très rythmées, avec des manières de jouer différentes, parce que ce qu'ils apportent, en tout cas, c'est, encore une fois, leur base de musique traditionnelle, qui n'est pas du tout la nôtre. Nous, en France, on n'est pas une culture du tambour, hein, ou des tambours, même si on a des percussions, on a du rythme, on a quelques percussions, surtout dans le sud-est, notamment avec les musiques franco-provençales traditionnelles, mais sinon le tambour ou les différents tambours, on n'a pas du tout cette culture. Donc tout s'est joué, je dirais, dans les années 70-80, quand il y a eu la mode des musiques du monde, ou ce qu'on a appelé en anglais la world music.
Et alors, votre album conjugue récit vernaculaire et vision futuriste. Les musiques du monde sont-elles pour toi celles qui annoncent le futur de la musique? Je vais préciser un peu ma question. Les musiques du monde comme base d'un répertoire qui ne cesse d'évoluer. Et je te pose la question parce que trouve que Kumakura incarne aussi vraiment ce truc-là, quoi.
Comment dire, l'intégration ou l'incorporation des musiques africaines dans le répertoire de la chanson française, par exemple, c'est véritablement Gainsbourg qui l'incarne. Notamment avec son album Percussion ou l'album qu'il a fait avec les Wailers. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire une capacité à intégrer ou incorporer ce qui est plutôt rare. Donc, en ce qui me concerne, par exemple, moi, j'ai essayé de créer une musique de fiction, c'est-à-dire je m'interroge sur les rendez-vous. J'ai interrogé les rendez-vous manqués de l'histoire de la musique française, si tu veux, où je me suis dit mais pourquoi on va chercher de l'autre côté et on se réapproprie, on pille parfois, et qu'il n'y a pas de notre côté une incorporation, des cultures musicales africaines qui pourraient être dans notre éducation musicale, par exemple, ou dans notre éducation familiale. Et il n'y a pas ces choses-là. Et moi, les musiques que je crée, que je compose, elles s'imaginent que les rendez-vous ont eu lieu. C'est ce qu'on appelle en sociologie le retour du refoulé, quoi. C'est-à-dire on va faire revenir ce qui a été refoulé. Et ça me paraissait très important pour rendre hommage aussi à toute mon expérience avec différentes cultures musicales que j'ai côtoyées, puisque j'ai joué avec des Gitans, avec des Afghans, avec des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Antillais aussi, et à chaque fois je jouais ça vraiment dans la situation traditionnelle, c'est-à-dire où tu joues un autre répertoire qui ne t'appartient pas, mais tu essayes. Et pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ce que tous m'ont dit, hein, c'est que c'est plutôt réussi, dans le sens où j'ai réussi à émouvoir les corps, quoi. Parce que j'ai accompagné la danse. Ce sont des musiques de fête, hein. C'est très important, les musiques de fête.
Alors, tu vas nous emmener dans la toute fin des années 70 avec les Californiens The Dobby Brothers pour la pause musicale à venir. Tu as choisi What a Fool Believes. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire à la fois sur ce groupe et sur le titre que tu as choisi ce soir?
Bon, c'est quand même un groupe qui a traversé des décennies, hein, avec différents membres. Mais là, c'est l'époque où je trouve qu'il y a un côté un peu plus soul, et notamment sur les accords de la musique. Et encore une fois, je trouve que c'est plutôt mélancolique. Et ce que j'aime dans ce titre, c'est, vous allez le remarquer, c'est une petite phrase musicale continue tout le temps, comme un rythme, comme une petite phrase qu'on peut trouver aussi dans des programmations de rap. C'est-à-dire une petite